ai-je une seconde à tenter? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur?
Have a dream. That one day, this nation will rise up, live out the true meaning of it.
Il n'y a pas d'homme providentiel que je ne vous mènerai pas à la victoire. La solution du problème, c'est...
Nos politiques, une émission d'Evelyne Adam. Invité ce soir, le député Michel Castellani.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'émission Nos politiques sur RCI, Radio Corsica International. Nous accueillons aujourd'hui le député de la première circonscription de Haute-Corse. Michel Castellani est avec nous. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Allez.
On pousse un peu. C'est assez physique d'être député en Corse. Hein. C'est beaucoup d'aller-retour.
C'est assez physique quand on décide qu'il y a du travail à faire. Ouais. C'est pas obligatoirement physique, tu sais, quand on peut prendre les choses de façon beaucoup plus décontractée. Hein.
Plus laxiste, oui.
Si maintenant on décide qu'il y a beaucoup de choses à défendre, importantes pour notre avenir, pour l'avenir collectif, à ce moment-là, oui, évidemment, on n'a pas beaucoup de temps à perdre.
Ouais. Alors on va parler de tout, sauf de politique, puisque cette émission est dédiée à l'homme qui est derrière l'étiquette politique. Michel, RCI tout d'abord, qu'est-ce que ça évoque pour vous?
C'est une radio qui remonte au temps où les choses étaient largement moins libres qu'aujourd'hui. Et elle a eu le courage de soulever, d'abord d'exister, et en plus, et ensuite d'aller sur des terrains qui était inaccessible à l'information publique à l'époque. C'est une radio qui a subi des avanies, on le sait, parce qu'il y avait une pression considérable sur la liberté d'expression. Et donc, bien sûr, qu'elle remonte à des temps beaucoup plus durs qu'aujourd'hui. Ouais.
Homme politique depuis 1986, vous vous engagez, Michel, en qualité de conseiller territorial de Corse. Vous décrochez un doctorat en sciences économiques en 91 à l'Université de Corse, Pascal Paoli, et vous dirigez des recherches en géographie humaine pour la Corse depuis 1999. Conseiller municipal de Bastia, adjoint au maire, c'est en juin 2017 que vous êtes élu député de la première circonscription de Corse en 2017, avec 60,81% exactement des suffrages. Vous cofondez le groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale, de professeur d'économie à député. C'est une vie d'engagement dédiée à la Corse, Michel Castellani.
Il y a eu différents épisodes. Moi, j'ai toujours été militant. Tu sais, à l'époque, quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très longtemps, il n'y avait pas de combat politique, il y avait des sensations. On sentait confusément qu'il fallait quand même faire quelque chose pour la Corse, mais nous étions en pleine période de bataille de clans, où la vie politique, finalement, ce n'était que du sport, comme un match de football, quoi, entre les Blancs et les Noirs, tout ça. Bon, la Corse n'existait pas. Les députés, encore, à Paris, parlaient de tout sauf de la Corse. D'ailleurs, ils parlaient de rien, si j'ai bien compris. Et donc, confusément, nous sentions qu'il fallait faire quelque chose. Petit à petit, ça s'est formalisé, grâce à des gens qui étaient la génération avant la mienne. Et c'est devenu le régionalisme, et puis après tout ça a été formalisé politiquement, analysé. Nous en sommes arrivés ensuite à la notion, vous le savez, d'autonomie, d'autres d'indépendance. À part ça, on a soulevé des problèmes techniques sur le statut de la langue, sur l'évolution du statut. On parle beaucoup maintenant, par exemple, de continuité territoriale qui était un désastre pour la Corse. Bref, on était tombé tellement bas qu'il a fallu tout construire. Tout avait été démoli. Donc ça, c'est une partie importante de ma vie. J'ai toujours été militant et j'ai jamais cessé de penser au combat, pas seulement de la Corse d'ailleurs, hein, c'est un combat mondial, on peut en parler. Moi, comme prof d'université, j'ai tourné le monde, donc je ne passe pas ma vie à regarder mon nombril. Mais il a fallu bâtir cette tout ce que vous savez aujourd'hui, tout le combat politique qui est formalisé. Mais ça, ce n'est qu'une partie de ma vie. L'autre partie, c'est professeur d'université, où là aussi, il a fallu
concourir. Vous avez parcouru le monde, hein, vous avez enseigné partout.
Oui, j'ai eu l'occasion d'avoir des expériences un peu partout. Oui. Et là, dans la petite biographie que vous avez citée, c'est bien, mais il manque quand même une part extraordinairement importante, c'est le doctorat d'État quand même à Sorbonne, qui est le couronnement de la carrière. Et donc, ça aussi, c'est un aspect important. J'ai immensément travaillé dans ma vie, immensément travaillé dans ma discipline. À un moment donné, maintenant j'ai beaucoup perdu depuis que je suis député, mais à un moment donné, j'avais quand même une culture économique qui était assez notable, disons. Voilà.
Quand on est autant impliqué dans la vie politique depuis 50 ans, est-ce qu'on arrive à tomber la veste? Est-ce qu'on arrive encore à se trouver une vie privée, une vie qui n'a rien à voir avec la politique?
Voilà, instant, on a toujours une vie privée, mais elle s'efface très, très souvent devant les impératifs immédiats. On a toujours quelque chose à faire, on a toujours quelqu'un qui veut vous voir, on a toujours une réunion qui traîne, on a toujours... Et ça passe toujours derrière. Après, on est obligé d'enlever, et à la fin, il ne reste plus grand-chose de privé, quoi. C'est la vérité.
La famille a toujours compté, tout de même.
Ma famille, oui, c'est-à-dire que ma femme n'est pas très contente que je sois député.
D'avoir épousé un député,
ça, il faut,
un politique.
Il faut avouer que ce n'est pas un grand enthousiasme, quoi. Considère même que c'est une forme de trahison, quoi. Parce qu'évidemment, moi, après, j'ai passé ma vie à Paris, dans d'autres cercles, à travailler et tout ça. Bon, la vie familiale, elle est complètement marginalisée. Moi, j'ai deux garçons. Eux, avec eux, j'ai des relations très, très étroites, bien sûr. Mais eux-mêmes ont des petits-enfants qui ne me connaissent même pas, quoi. Je n'ai plus le temps de voir.
Ça n'a pas créé des vocations chez eux ?
Non, pas du tout. Ils sont engagés. Dire, comme citoyens, ils ont des idées. Mais le combat politique de terrain, je dirais non, pas du tout. Il faut dire que tout le militantisme que j'ai fait, moi, pendant ma vie, ça les a un peu écœurés aussi, hein.
On en revient à l'enfance, Michel. Quel était l'enfant, Michel Castellani? C'était un enfant studieux, on voit votre parcours, un enfant qui avait déjà des ambitions?
Pas d'ambition, non, au contraire, c'était très modeste. Moi, c'est la Corse de l'après-guerre.
Quelle est votre Corse?
Avec tout ce que ça comporte. De difficultés matérielles et tout. Par contre, oui, moi, dès qu'il y avait un livre quelque part, ou un écrit, je le prenais d'instinct, comme ça, c'est toujours le cas maintenant. Dès qu'il y a, je lis, je réfléchis, ça, c'est une tournure d'esprit qui ne m'a jamais abandonné, mais que j'avais déjà tout jeune, quoi. Et ça m'a permis d'acquérir, donc, pas mal de choses sur le plan professionnel, oui. Il faut travailler.
Vos parents rêvaient de quoi pour vous ?
Ma mère a énormément insisté pour que je sois médecin. Elle voulait que je fasse médecine. Moi, médecin, j'étais pas enthousiasmé par l'idée d'être au milieu des malades, même si je reconnais que c'était un métier fantastique. Mais voilà, c'est pas pour moi. Moi, je préférais être au milieu des jeunes. J'étais passionné par l'organisation de la société, par les aspects économiques. L'économie, c'est une science extraordinaire, quand on la traite bien. Et j'ai toujours travaillé dans ce domaine, et c'est ça que j'ai voulu faire et que j'ai eu la chance de pouvoir faire.
La nostalgie, est-ce qu'elle vous anime quand vous repensez à l'enfance? Vous vous dites, qu'est-ce que j'étais heureux, même si c'était modeste?
La nostalgie, c'est un sentiment qui traîne toujours. Moi, j'ai toujours un arrière-fond de nostalgie dans tout ce que je fais, le temps qui passe. Je suis un type qui suis totalement dans l'incapacité, par exemple, de regarder des photos du temps passé. Il y a des gens qui ont des albums, ils regardent leur vie familiale, leur vie privée, personnelle, tout ça, du passé. Moi, je ne peux pas. C'est trop triste, le temps qui passe, qui file, les événements auxquels j'ai tenu, beaucoup d'autres d'ailleurs, qui sont passés irrémédiablement. Et ça, c'est une usure permanente du temps. Et c'est pas bon du tout, quoi. Moi, ça me démolit, ça. Ouais.
Alors, on va essayer de mettre un petit point positif dans ces années nostalgiques. On est dans les années 70. Il y a un groupe que vous m'avez demandé de programmer, Dire Straits, Sultan of Swing.
band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. We'll be right back.
Michel Castellani, député de Corse, est avec nous aujourd'hui. Dans les années 70, ce sont les années d'engagement, on en parlait, elles vont motiver la voie politique. Vous faites partie de la première assemblée de Corse auprès d'Edmond Siméoni en 82 pour le peuple corse, de l'enseignement en parallèle. Tout s'est tenu à ce moment-là.
Ah, c'était une aventure extraordinaire. Vous savez, la première assemblée de Corse, on a été regardé comme des extraterrestres, là aussi. Et les gens imaginaient que nous avions un pouvoir phénoménal, alors qu'on n'en avait aucun, sauf celui de Baratini, et encore. Attendez. Dans des circonstances très, dans des conditions très, très, très limitées. Exemple, il n'était pas question à l'assemblée de Corse de dire un mot, une parole de Corse, hein. Il y avait immédiatement un appel au règlement. Le père Jagobi, l'ancien, et Pascal Arrighi faisaient immédiatement appel au règlement dès qu'on lâchait une parole de Corse. Il faut bien voir ce que c'était la première assemblée de Corse. C'était extraordinaire. Bon, et donc, là aussi, on a débroussaillé le terrain. Il a fallu travailler, avancer, découvrir les compétences qui pouvaient être les nôtres. Le combat continue d'ailleurs, c'est pas fini.
Alors, ça engage la voie politique ? À ce moment-là, vous vous dites, parallèlement à l'enseignement, à l'économie, je m'engage.
Mais c'est pas ça, c'est que moi j'avais il faut voir les conditions politiques à l'époque, c'était quand même très dur, on était contestés, il y avait quand même des barbouzes. Moi, ma famille a sauté à plusieurs reprises, quand on prenait des bombes. Hein. Moi, j'étais obligé de faire sortir ma mère, elle avait une chambre près de la porte d'entrée. Je l'ai obligé à aller dormir dans la chambre du fond de l'autre côté, parce que on était vraiment menacés. Mon frère a sauté quand même, alors que c'est un type tout à fait honnête, qui n'a jamais fait de mal à personne, il a sauté quand même deux nuits de suite. Hein. Et donc on était menacés, moi je recevais des coups de téléphone en pleine nuit qui menaçaient mon épouse, bon, etc. C'est pas rigolo. Et moi, il se trouve que j'étais très 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 proche d'Edmond, avec Edmond Siméon, et on a vécu du militantisme pendant des années et des années, mais vraiment comme les doigts de la main, quoi. On se comprenait au regard avec Edmond. Et ce qui ne veut pas dire qu'on était d'accord sur tout, mais on était presque fusionnel à un moment donné, quoi. Et donc, du coup, évidemment, il m'a collé sur sa liste pour aller à l'Assemblée. On habitait tous les deux ensemble dans un petit appartement du cours Napoléon. On n'avait pas le même timing. Moi, je suis un oiseau de nuit. Je me couche à 2h du matin. Edmond, lui, il se lève à 3h du matin. Et donc, il me secouait dans le lit, m'obligeait à me lever le matin pour aller à l'Assemblée. Il arrivait une heure avant, il partait une heure après, il m'a tué, quoi. Mais le combat politique, c'était quelque chose à l'époque. On était vraiment maltraités, quoi. Très, très maltraités. On représentait vraiment la négation de tout ce qu'était la vie politique vue par le clan. C'était deux mondes différents. Et voilà, ça a été une époque, ça aussi. Après, je me suis retiré, j'ai donné la priorité à ma vie universitaire.
Vous parlez d'Edmond, beaucoup d'amitié pendant cette période-là. Vous êtes resté fidèle à des personnes ?
Moi, j'ai toujours été fidèle à mes idées, à mes amis, d'une fidélité inébranlable. Vous pouvez être sûr que moi, je ne trahirai jamais mes amis ou mes idées. Par contre, je ne suis pas du tout un type de parti, je n'ai pas de carte, je ne me laisse pas encarter, ce n'est pas mon caractère. Bon, je ne suis pour rien. Hein. C'est ça, oui. Mais après, vous savez très bien que je suis toujours le même fil politique, je n'ai jamais varié. Moi, ma vie politique et mes idées politiques, c'est une ligne droite. Hein. Je n'ai jamais changé de... Et c'est enrichi de toutes mes expériences. Je vais vous dire, moi j'ai un problème avec le terme nationaliste. J'en parlais même avec pas mal de membres du gouvernement dernièrement au comptoir de la buvette à Paris. Moi, nationaliste, il faut voir ce qu'il y a derrière le terme. C'est le piège des mots en politique. Si c'est de prendre en compte ce qu'est la Corse dans sa richesse historique, dans ce que nous ont laissé les anciens, dans le fait qu'il y a vraiment un peuple qui assimile des gens avec un sentiment d'appartenance, tout ce que vous voulez, pas de problème, je suis nationaliste à 100%. Si c'est maintenant les connotations négatives du terme, niette, moi, il n'y a plus personne. Moi, je ne suis pas de ceux qui rejettent. Vous savez, moi, je suis rentré dans des amphis extraordinaires dans ma vie professionnelle, dans des amphis énormes à Pékin ou à Shanghai ou au Sorbonne de Puerto Rico, pendant 10 ans à Gênes ou 4 ans à la Sorbonne. Et j'ai vu partout des jeunes qui avaient des problématiques très différentes. Quand j'enseignais au Maroc... c'était l'an 1400 et quelques. Après, j'allais en Chine, c'était l'an 5000. C'était tout écrit en vermicelle, auquel je ne comprenais rien. Bon, donc, ça rend modeste, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y a une diversité du monde extraordinaire, mais que partout les jeunes avaient les mêmes problématiques. Il fallait créer leur avenir dans un monde difficile et ils espéraient par les études, tout ça. Et moi j'ai des doctorants, ou des gens qui sont devenus docteurs d'ailleurs, que j'ai amenés jusqu'au doctorat, partout dans le monde. Donc, nationaliste, oui, très bien, mais il faut voir ce qu'il y a derrière la parole. Moi, je suis citoyen du monde. Je suis citoyen du monde, je suis citoyen européen, je suis citoyen français, je suis citoyen corse, et puis peut-être même cap-corsain. Mais c'est indissociable. Je ne peux pas vous dire que mon bras, c'est la France, ou l'autre bras, c'est l'Europe, la jambe, c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est indissociable, c'est dans l'esprit. Et donc, ça, c'est très important. Faire comprendre ça...
Vous y êtes arrivé dans l'hémicycle ? À faire comprendre ça ?
Un peu, oui. Oui, mais ça, ça ne relève pas du débat public. Ce n'est pas dans un micro à l'Assemblée nationale qu'on explique ça. Mais par contre, dans les débats privés, oui.
J'ai eu on sait qui vous êtes.
Ah oui, oui. Ça, j'ai discuté pas mal avec les ministres sur ce plan-là. Un soir, c'est 1h du matin à la buvette, en particulier. Je me rappelle cette discussion. Il y avait aussi Le Foll, qui est devenu maintenant maire du Mans, qui me disait, oh, mais tu comprends, nationaliste, j'ai dit, dis-moi, le piège des mots, tu connais. J'ai dit, dis-moi, Staline, il était de gauche, ouais. Et Strauss-Kahn, il est de gauche. J'ai dit, c'est le piège des mots. J'ai dit, nationaliste, c'est pareil, hein. Dis-moi, moi, je ne suis pas Hitler. Hein. Et donc, il m'a dit, oh, bah, je veux organiser un débat au Mans. Je lui ai dit, bah, je viendrai.
Allez, il y a un titre que nous allons écouter, parce que vous écoutez aussi de la musique classique, c'est Verdi, avec le Nabucco. On va écouter Le cœur des esclaves. Sur RCI, Radio Corsica International, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour nos politiques Michel Castellani, député. Michel, quand on voyage autant, parce qu'il y en a des heures de vol, hein ?
Trop.
Ouais. Et que l'on part si souvent à Paris parce qu'il faut être présent. C'est important d'être présent en tant que député pour venir défendre tout ce qu'il y a à défendre, les projets de loi. Nous parlerons du projet de loi remporté sur la protection des langues régionales et notamment la langue corse. On n'a pas envie de s'installer à Paris pour que ce soit plus simple ?
Bah, quand on est l'émanation de la Corse, le moindre des choses, c'est d'être présent sur le terrain. Mais c'est difficile parce que on a une double attraction. On est attiré ici par tous les gens qui veulent vous voir, tous les maires, les institutionnels, les syndicats, les ceci, les personnes aussi. Et puis à Paris, par l'obligation quotidienne. Il faudrait. Et d'ailleurs, regardez, nous avons, nous, chaque fois une double critique. On nous reproche de ne pas être présent sur le terrain. Et on nous reproche de ne pas être présent dans l'hémicycle.
Et d'être absent dans l'hémicycle.
Donc, c'est un peu. D'ailleurs, l'hémicycle, soit dit en passant, quelquefois, on n'y est pas parce qu'on est en commission. Moi qui viens de me taper tous les budgets maintenant, je peux vous dire que la commission des finances, c'est pas rien. Hein. Vous rentrez à 9h du matin, vous en sortez à 2h du matin tous les jours. Alors, moi, sur le tableau, on a un double tableau dans la salle. Le tableau de notre propre commission et le tableau de l'hémicycle. Et quand je vois, par exemple, qu'il y a un amendement de moi-même qui approche, je quitte la commission des finances, je cours dans l'hémicycle, je défends mon amendement. Je retourne en commission des finances et des fois, ça passe en même temps. Un amendement que j'ai en commission des finances et d'hémicycle, là, il faut faire un choix. Ça me met en rogne parce que je suis obligé mécaniquement d'en rater un, quoi. Mais ça, les gens ne le savent pas. Bon, maintenant, il y a aussi le fait que des fois, à 1h30 du matin, on est 30, quoi. Ça, c'est sûr. Il n'y a plus personne dans l'hémicycle. Et ça, c'est dur. Mais il faut y être. Moi, il m'est arrivé de repousser des amendements assassins pour la Corse à 2h du matin, quoi. Et heureusement que j'y étais.
Michel, quand vous arrivez à Porreta, qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours le même sentiment, la joie de retrouver la terre. Et quelle est votre vie à ce moment-là pour le week-end ?
Dans ma vie privée, j'ai des sentiments qui sont inscrits en moi. Tous les lundis, quand je pars à Paris, je ne suis pas heureux. Je suis stressé, j'ai pas envie de partir, ça c'est évident, c'est une forme d'arrachement. En plus, quand on est sur une île, il y a toujours cette forme de rupture. Hein, on quitte une terre où il n'y a plus de continuité. Après, je suis sûr que les gens qui prennent un train pour aller d'un endroit à un autre, c'est pas exactement la même chose, quoi. Même s'ils peuvent être tristes aussi de quitter leur endroit. Mais donc, quand je pars, moi je suis stressé, quoi. Le lundi, je ne suis pas content, je suis triste, ça m'ennuie. Quand je quitte ma maison, je vois que ma femme n'est pas contente, je vois que ma chienne, elle a les oreilles en arrière, elle se met sous le lit quand elle voit que je prends la valise, elle est désespérée de me voir partir. Je veux dire, c'est bon. Et par contre, quand je retourne, j'ai toujours le même sentiment, j'ai toujours eu ça. Que je rentre de Paris ou que je rentrais dans les temps de Pékin, j'ai toujours la joie de retrouver la Corse. Quand je mets le pied par terre en Corse, je suis. Je sais pas, on change de logiciel, quoi, c'est pas pareil.
Comment occupez-vous le temps que vous accorde, même s'il est minimaliste, ce temps que vous accorde de ne pas être à l'Assemblée, comment l'occupez-vous sur l'île ? Vous allez à la rencontre des citoyens ?
Ici, je n'ai pas de temps libre, même pas le dimanche, rien, parce qu'il y a plein de gens, on n'imagine pas, qui veulent voir le député. Alors, d'abord, moi, je vais voir tous les maires et les conseillers municipaux. Je suis allé dans les 45 mairies de ma circo, dans toutes, et même à plusieurs reprises, d'ailleurs. Cet après-midi, je vais en faire d'autres, trois, par exemple. Il y a ça. Il y a des gens qui veulent vous voir, ils viennent à la permanence, parce qu'ils veulent vous parler de tel ou tel problème. Voilà, d'autres qui font des propositions d'amendements, parce que moi je suis à la commission des finances en plus, donc c'est quand même un endroit stratégique. Donc voilà, telle affaire, les auto-écoles, un jour c'était l'entreprise, un jour c'est les douanes, un jour c'est les agriculteurs, un jour c'est l'hôpital de Bastia, un jour c'est ceci, un jour c'est ça. Et même, je peux même vous dire qu'à plusieurs reprises, il y a des gens qui sont venus me trouver d'Ajaccio. Et moi, je leur dis, mais Ajaccio, vous avez votre propre député, il n'y a pas besoin de venir à Bastia. Ils me disent, oui, mais enfin, on préfère parler avec vous, parce que... Voilà. Et donc, moi, mon temps libre, il se limite à très, très, très peu de choses, quoi.
Alors, pas d'expo, pas de cinéma, le côté culturel, vous ne pouvez pas ?
c'est fini tout ça pour moi. Non, non, sinon, je pense, il y a des années que je ne mets pas les pieds, c'est malheureux.
Mais... La pêche, la chasse, non.
Ah non, jamais, moi je ne tuerai jamais un animal. Ça, ah. Alors, ça, c'est pas moi. Hein. Non, moi les animaux, je leur donne plutôt à manger.
Et bienvenue.
Quand je suis au village, moi les sangliers, je ne les remplis pas de plomb, je leur donne du pain sec. Ah oui. Bon. Et donc, et les renards, pareil. Donc, ce n'est pas une réaction très paysanne, je reconnais, mais c'est comme ça, quoi. C'est ma culture. Non, moi, de sucettes, je n'en ai plus beaucoup maintenant. Il me reste un peu le sporting. Et non, et je vous dis, c'est vraiment, de ce point de vue, c'est prégnant, quoi. On n'a pas tellement de temps de... En plus, bon, ça s'impose à vous. Vous avez un peu du temps qui est ce qu'il y a. C'est même pas moi qui le prépare, d'ailleurs. J'ai deux assistants. Et puis voilà, ils sont impitoyables avec moi, quoi. Ils poussent le cheval à fond, quoi. Après, moi, des fois, je me révolte parce que je me dis, oh, vous me prenez pour... Voilà. Et donc, mais eux, ils font, évidemment, ils le font parce qu'il y a des obligations et puis ils le font dans mon intérêt, quoi.
Allez, on va écouter un titre supplémentaire de votre choix, évidemment. Pedro Guelfucci avec Corsica. Sur RCI, Radio Corsica International, nous recevons aujourd'hui Michel Castellani, député Haute-Corse. Michel, il y a, avant d'en arriver à la loi que vous avez si brillamment défendue pour la protection des langues minoritaires, des langues régionales, j'aimerais que nous évoquions ce moment avec le départ d'Edmond Simeoni et le départ de Pedro Guelfucci. Ce sont des amis là qui s'en vont.
Ah bien sûr, oui. La vie elle est faite comme ça, de moments tristes, et on perd comme ça au fur et à mesure que le temps passe. On perd des gens qui nous semblent indispensables, puis après il faudra s'en passer, mais le vide il y est. Edmond, ça a été toute une vie au service d'une cause. Edmond, et puis il faut comprendre que Edmond était un type qui avait le niveau pour être ministre.
Oui, un homme d'État. Oui.
C'était une bête politique. Moi, je connais bien les ministres, je les fréquente tous les jours, et je connais Edmond, que j'ai fréquenté aussi beaucoup. Je sais qu'Edmond était tout à fait au niveau de... même bien, quoi, sans problème. Et malheureusement, malheureusement ou pas d'ailleurs, il a choisi de... Vous savez, une autre voie, celle de défendre des valeurs ici, c'est-à-dire un combat ingrat, où il a fallu pédaler contre le vent, contre le système politique, contre l'État. C'était épouvantablement difficile. Il a sacrifié toute sa vie, il a recueilli rien.
En parallèle de sa
profession. Parce que nous recueillons. Moi, quand je rentre à l'Assemblée nationale, je me dis des fois, je n'ai pas ma place, quoi, par rapport à sacrifices qu'ont fait d'autres personnes. C'est pour ça que j'essaie d'être digne, d'essayer de faire vraiment un boulot sérieux à l'Assemblée, parce qu'il me semble qu'il y a d'autres que moi qui mériteraient plus par leur engagement, par leur sacrifice d'y être. Et Edmond, évidemment, le malheureux, il a donné tout au long de sa vie, il a sacrifié sa vie personnelle, sa vie professionnelle et tout, il a été en prison, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, et pour ouvrir la voie à d'autres, et ça a été ça. Quant à Pedro Guelfucci, c'était aussi autre chose. Pedro, c'était une voix irremplaçable. Il a énormément porté, contrairement à ce qu'on peut penser, porté dans le réacquiste ou dans la reconquête d'une certaine forme.
Langue,
ouais.
Culture,
et Pedro était un garçon, sur le plan personnel, aussi extraordinairement gentil et honnête. Et bien connu aussi.
Alors parlons de cette langue corse que vous êtes venu défendre à l'Assemblée avec tant de brio. Vous êtes reconnu comme étant ardent défenseur du peuple corse, de sa langue. Vos parents n'ont jamais mis les pieds à l'école, Michel ?
Non, c'était la rupture, je l'avais dit le jour, oui, c'est vrai. Je l'avais dit dans mon discours à l'Assemblée nationale, c'est vrai, ça avait fait forte impression. Et pourtant, c'était la vérité stricte. Mes parents, non, c'était courant en Corse, d'ailleurs, c'était déjà modeste. À l'époque, on avait autre chose à faire que d'aller à l'école. Et malheureusement. Et donc, ça, c'était une rupture extraordinaire entre prenez le père et le fils. Mon père, il a été élevé dans la pauvreté, dans la plaine de Marana, où il a ramassé d'ailleurs la malaria qui l'a accompagné toute sa vie. Il avait des accès de fièvre terribles et il est mort jeune. Et voilà, une rupture avec moi-même qui, au contraire, passait toute ma vie dans des écoles, dans des amphis, dans des universités, vous imaginez la rupture qu'il y a. Mais mon père était intelligent, c'est pas pour autant que c'était un crétin. Et il avait appris tout seul à lire, bon, à écrire un peu, comme il faisait comme il pouvait, mais voilà. Et donc, chez moi, on n'a jamais dit un mot de français. C'est simple. C'est-à-dire que, spontanément, leur langue, leur matière, c'était la langue corse, leur façon de communiquer. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils m'ont pas enseigné des idées nobles. Moi, les valeurs suprêmes de ma famille, c'était l'honnêteté, le travail, l'école, c'était valeur que moi, j'étais imprégné de ça tout petit, j'ai même pas remis en cause, j'étais programmé pour ça, depuis que j'étais tout petit. Pour moi, il fallait aller à l'école, il fallait travailler, il fallait progresser dans la vie, il fallait être honnête. Moi, vous pouvez mettre toute votre fortune ici et partir, il ne vous manquera pas un euro. Hein. Donc, ça, ce sont des valeurs innées, peut-être innées chez les autres, peut-être pas innées, mais en tout cas, enseignées, c'est ce qu'on appelle le bain culturel, quoi.
Alors, une proposition de loi qui apporte des mesures de protection, de promotion des langues régionales dans trois domaines, le patrimoine, l'enseignement, les services publics. Vous avez défendu cette loi, elle est née, la loi Molac est promulguée le 21 mai 2021 relative à cette protection. C'est une victoire, ça, Michel ?
Bien sûr, oui, ce sont des choses importantes. En fait, il faut resituer les choses dans leur contexte. Vous savez qu'en France, nous sommes dans le cadre d'un État-nation. C'est-à-dire que la Constitution garantit l'égalité irrémédiable de chacun devant la loi. Mais c'est un système qui découpe toutes les têtes qui dépassent. C'est-à-dire que c'est un système qui est incapable de prendre en compte la diversité qui fait la richesse de la France. Mmh. Bon. Et donc, tout le combat que nous menons, c'est justement...
sortir du standard.
C'est d'essayer de faire comprendre, mais ce n'est pas facile, que l'égalité sur les principes fondamentaux, bien sûr, il ne faut pas le toucher, c'est la base de la démocratie. Mais en même temps, on peut arriver, il faut arriver à ce que dans la loi, il y ait une adaptabilité. Parce que, enfin, excusez-moi, mais les choses à Wallis et Futuna, par exemple, ne se présentent pas de la même façon qu'en Corse, qui ne se présentent pas de la même façon que dans telle ou telle métropole continentale et tout ça. Donc, ça, c'est le gros débat. Et le débat sur les langues régionales, c'est un des aspects de cette conception de la France qui est différente de ta nation. Mais ça, c'est un combat qui n'est pas loin d'être fini, parce que nous heurtons un bloc très, très, très dur, qui est le bloc, je dirais, cocorico. Il y a deux Frances, vous savez. Il y a une France qui est généreuse, qui est enracinée, qui est une France des droits de l'homme, celle-là, on la connaît. Bon. Et puis, il y a une France qui est quand même dure, très, 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 qui est prête à rien lâcher sur tout ce qui sort de la norme commune. C'est difficile.
C'est un brillant, émouvant, je le disais, plaidoyer qui nous offre un cadre légal pour la protection des langues minoritaires aujourd'hui. Je voudrais reprendre ce que vous disiez dans votre plaidoyer, justement, dans ce discours que vous faites à l'Assemblée. Vous dites à un moment donné, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, quand il note que rien n'est plus dangereux que de chercher à rompre le cordon maternel qui relie un homme à sa langue, lorsqu'il est rompu ou gravement perturbé, eh bien cela répercute désastreusement sur l'ensemble, de sa personnalité. Vous le concevez vous aussi ?
Ben oui, bien sûr, oui. La langue fait partie intégrante de notre façon de voir le monde. Parce que derrière la langue, il y a toute une idée du monde, des relations aux autres. Il y a des proverbes, il y a des chansons, il y a une culture. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des expressions, il y a la façon de s'exprimer, vous voyez. Par exemple, si vous dites en Corse, ça a un sens. Si moi je dis à Paris, les types ils vont me regarder, ils vont dire c'est ça. Bon, vous comprenez ? Et voilà, et donc tout ça, ça fait partie de l'intimité de l'être. Oui, bien sûr. Donc oui, ça fait partie du combat politique. Mais il faut bien comprendre que le combat politique, pour la langue, c'est vital. Mais que derrière, il y a d'autres combats tout aussi importants que je dois mener, moi, en particulier à la Commission des Finances, sur par exemple un statut fiscal de développement. C'est moins romantique, mais c'est tout aussi important. Et puis la spéculation, et puis les prisonniers, et puis les transports maritimes, et puis ceci, cela. Il y a des dossiers, il y en a une bonne dizaine assez difficiles.
Alors on va quitter la langue si bien défendue par vous, mais je voudrais en revenir à ce moment que vous avez aussi traversé comme nous tous. Nous entrons dans une nouvelle période de restrictions sanitaires, vous avez été touché par le Covid. Comment l'avez-vous vécu cette période-là et comment voyez-vous l'avenir avec ce qui nous arrive là maintenant ?
Le Covid, ça a été terrible. Moi, heureusement, je suis sportif. Je ne rentre jamais dans ma chambre, ici à Bastia ou à l'Assemblée nationale, sans avoir fait du sport. J'ai des haltères là-bas dans mon... Je ne suis pas champion olympique, mais enfin, je travaille, quoi. Dans mon bureau à l'Assemblée nationale et tout. Heureusement, parce que j'étais en pleine bourre, en pleine forme. D'un coup, ça m'est tombé. Je me suis retrouvé à l'hôpital dans une souffrance importante, je peux vous dire. Hein. Ouais. Et j'ai pu mener tout ça comme un combat de boxe, parce que j'étais armé pour le faire. Heureusement, sinon, je pense qu'à cette heure-ci, je serais au cimetière. Et donc, depuis, j'ai eu des difficultés à revenir, parce que quand même, pour retrouver après de la vitalité, retrouver de la vitalité physique, mais aussi mentale. Parce que le Covid vous laisse, dans le Covid long, il vous laisse dans une espèce de brouillard, où vous avez toujours l'impression d'avoir sommeil et tout. C'est vraiment terrible pour se relever de ce truc. Hein. Donc, ça a été une épreuve tout à fait difficile qu'il a fallu surmonter. Ouais.
Aujourd'hui, comment trouvez-vous la gestion de ce qui se passe avec les nouvelles restrictions ? Vous l'avez vu, le pass sanitaire est modifié. On va aujourd'hui perdre le pass sanitaire si on n'est pas vaccinés dans les 7 mois qui suivent la dernière dose. Que pensez-vous de ces mesures qui arrivent?
Moi, je suis un type qui, toujours, en toutes circonstances, y compris dans l'hémicycle, je suis un libertaire, moi, pour moi-même. Donc, j'essaie de l'être pour les autres. J'ai toujours défendu la liberté individuelle. Là, par contre, ça me pose un problème, dans la mesure où c'est une question de santé publique. Moi, j'ai tellement souffert du Covid que, voilà, dès que j'ai pu, je suis allé au vaccin, parce que je crois à la science. Voilà. Après, je comprends que d'autres... Moi, dans ma famille... J'ai deux garçons. Un se fait vacciner régulièrement sans problème, l'autre refuse. Enfin, moi, je respecte leur choix à l'un et à l'autre. Personnellement, je suis allé au vaccin parce que je sais ce que c'est le Covid. Hein. Je l'ai touché de près et je peux vous dire que ce n'est pas la joie. Hein.
L'hôpital de Bastia accueille 60% des Corses. Que faut-il faire aujourd'hui? Nous manquons de lits.
Ça, c'est un des gros combats que je mène à l'Assemblée nationale. Je suis déjà intervenu 7 fois en séance publique, en question au gouvernement, sur la nécessité d'avoir un hôpital efficace sur Bastia. L'hôpital de Bastia soigne 60% effectivement la population de Corse, de Bonifacio jusqu'à Galeria. Et il est obsolète, il est dépassé, et donc il faut impérativement que le gouvernement prenne conscience de cette affaire. C'est un combat qui est loin d'être achevé.
On va évoquer maintenant un groupe corse de polyphonie qui vous tient à cœur, qui s'appelle Balagna. Les voici.
Una guitarra e un quaderno, sciocchi di vere ma pederno, una guitarra con si dace ed arreduto mondo iace salugando se firmato ricorda che tu sei stato core un soffio e ridromo paese no e sa fatta l'ispensata a vita mai campata peccio che non si mu esseremo cantemo 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 né scuola né stato o non salva ciò che è andato un domanda o begu radio rimpatto a usare radio ti verma per sole via tre voce e un'armonia disco con un ciano preso tutto stiarisce appena udiurra ad oggi è sicura peccio che non si mu esseremo cantemo 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 anigati e persi sazzinghessi non asti versi per lasciati o juventù un ritratto di giochi fu un bangero di agursità e domani chissà studi dello spuntellato trovi l'usum Steman se sraigade, torni in rinceppate, peccio che non si mu esseremo. Cantemo.
Michel Castellani est avec nous sur RCI, Radio Corsica International. Michel, ce groupe-là vous tient tout particulièrement à cœur, Balagna. Qui sont-ils ?
Balagna, c'est un groupe qui souffre d'un défaut de notoriété, à mon avis d'un déficit, mais qui effectivement est un des groupes, il y en a d'autres, de très grande qualité en Corse. Je crois que la particularité de Balagna, c'est que toutes les chansons sont resituées dans leur cadre historique, sont présentées au public. Et donc les gens redécouvrent à travers toute une série de chansons, leur propre histoire, ou l'histoire qu'ils veulent découvrir quand il s'agit de touristes ou autres, parce que c'est expliqué de façon tout à fait remarquable, à mon avis. Et moi, je les ai vus à quelques reprises, et chaque fois, j'ai remarqué que le public, et moi-même d'ailleurs, était très, très, très satisfait des soirées quoi, que ce groupe est capable de donner. Sans compter qu'il y a de très, très bons musiciens et qu'il y a de très, très belles voix. Ça aide quand même un peu.
On reparlera de Marc-André parce que c'est votre fils, Marc-André.
Ah oui, accessoirement, oui. Mais enfin, bon, ça n'enlève rien à son talent.
Un bon musicien qui est demandé dans un peu partout. Hein. Il accompagne beaucoup de groupes.
Oui, quelquefois, oui, bien sûr. Mais oui, c'est un garçon qui, à mon avis, je discute toujours très, très volontiers avec ce garçon parce que. Pas parce que c'est mon fils, oui, ça gâte rien. Mais parce qu'il est vraiment intéressant en tant que tel, quoi.
On va, dans les médias, se retrouver avec Michel et un espoir peut-être pour demain. Quel est-il ? Est-ce que Michel, au bout de cette période que vous avez connue en qualité de député, vous êtes prêt pour un tour supplémentaire ?
Actuellement, on a toujours un quotidien qui est très chargé comme député. Moi, je suis déjà maintenant sur la loi 3D, essayer de voir ce qu'on peut arracher pour la Corse, et puis pas seulement pour la Corse d'ailleurs. Mais après, ça va se poser très très vite, évidemment, parce que ça vient vite, ouais. La question du prochain mandat. Moi, qu'est-ce que je l'ai déjà dit, au moment où en parlons ici, je n'ai pas de raison de ne pas me représenter. Maintenant, bon, on verra dans les mois qui viennent, parce qu'il reste encore quelques petits mois qui passent très vite. On sera très vite en campagne électorale. Si les choses n'ont pas changé d'ici là, moi je serai candidat, oui, bien sûr. Mais parce que vous savez, je dis bien sûr, bon, c'est pas évident, mais quand vous avez investi ce que moi j'ai investi pendant 5 ans, pour faire son chemin à Paris, pour connaître tous les ministres, pour en tutoyer un certain nombre, pour avoir le 06 dans mon téléphone, pas par plaisir, mais pour pouvoir plaider à bon niveau. Quand vous avez fait ça, que vous avez acquis quand même tous les codes de la commission des finances, tous les codes de l'Assemblée, il y a tellement de choses à défendre encore pour la Corse.
Ça, il y a encore beaucoup de
thèmes. Et que vous êtes passionné par cette défense. C'est difficile de sortir du jeu, quoi. Maintenant, c'est vrai que les cimetières sont remplis de gens indispensables, quoi. Voilà.
On vous attend pour une prochaine mandature, Michel.
Bon, voilà. Hein ?
Un espoir suprême pour l'île demain. Qu'est-ce que vous espérez pour la Corse ?
Moi, j'espère que la Corse règle enfin ces questions, qu'elle soit reconnue pour ce qu'elle est. J'essaie toujours d'inscrire mon combat politique dans la complémentarité, pas dans l'opposition. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on continue de faire vivre cette île dans la tradition sans rupture, que les gens qui viennent depuis l'Empire romain tous les jours se fondre dans notre communauté puissent continuer à le faire, mais que les signes sociaux, sociétaux de la Corse continuent de faire vivre, au-delà des différences individuelles, ce sentiment commun d'appartenance, ce projet, sans lequel une société, c'est jamais qu'une jungle. S'il y a un agrégat d'individus informes, il faut qu'il y ait un projet commun. Moi, j'aimerais qu'il y ait ces signes, au-delà des différences, que les gens qui vivent ici aient conscience de ce qu'est la Corse, ce qu'elle a été, sachent ce que c'est le Poulain, un Figadil, ou une Paillée, la Zantadonio, le Sporting Club de Bastia, etc. etc. Il y a toute une série de signes qui font que ce qui me choque, moi, c'est de voir débarquer des gens ici au bout d'un an, deux ans, trois ans, c'est comme s'ils avaient débarqué en Australie ou au Canada. Ça, c'est pas possible. C'est des gens qui vivent en apnée. Non, il faut que la Corse continue de fabriquer des Corses, que nous continuions notre destin commun. Et après, évidemment, améliorer toujours les choses. Moi, je suis prof d'économie sur le plan des matériels, sur le plan des infrastructures. Une île doit se moderniser, enfin, une terre, quelle que soit, elle doit se moderniser en permanence. Ça fait beaucoup de pain sur la planche.
Merci beaucoup pour ce que vous avez déjà fait pour elle. Merci pour cet engagement. Merci Michel d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCI. J'étais ravie de vous accueillir.
Merci à vous. Au contraire, c'est moi qui vous remercie.
Ayez une seconde à tenter jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur?
Have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of it.
Il n'y a pas de...